Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, je pense que nous allons parler d'un sujet assez philosophique de manière générale, bien qu'il réponde à une actualité tout à fait particulière, à savoir toutes les violences qui ont eu lieu suite à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
J'imagine même pas ce qui serait passé s'ils avaient perdu.
Ouais, à mon avis, il y en aurait eu quand même un petit peu moins parce qu'il y aurait eu moins de ferveur, mais peut-être que ça aurait été plus violent sur un laps de temps plus court, disons. Enfin voilà, c'est vrai que parfois on sait pas forcément si l'équipe a perdu ou gagné en fonction des résultats des casses, effectivement. Tout d'abord, avant d'évoquer ce sujet, je voudrais dire que le second tour des élections présidentielles a eu lieu en Pologne. On en avait parlé, et donc c'est le candidat du parti Droit et Justice, finalement, donc Nawrocki, qui a gagné l'élection. Alors, pas grand-chose, avec 50,9% des voix, et au tout début du décompte, il était donné légèrement derrière son opposant, avec 40,5% des voix à peu près. Et après, les scores se sont un petit peu ajustés dans la soirée. Au final, on a ce score. Donc, c'était pas forcément évident, compte tenu de la plupart des sondages d'opinion d'il y a quelques mois. Alors ça s'est resserré sur les dernières semaines, mais c'est vrai que, on va dire, ce parti Droit et Justice, qui est vraiment le parti plutôt de droite radicale, qui est au pouvoir depuis pas mal de temps en Pologne.
Ils sont pas au pouvoir, ils sont à la présidence, parce que
oui.
C'est Tusk qui est au pouvoir.
Oui, alors ils ne sont plus au pouvoir depuis 2 ans, je crois, deux ans. Mais effectivement, ils ont été au pouvoir pendant très longtemps. Il y avait le président, donc Andrzej Duda, qui était en poste depuis 10 ans. Et donc globalement, ils tenaient le pays, mais ils ont eu un revers en 2023. Et aujourd'hui, il reste à la présidence, en tout cas. Donc comment lire, en fait, ce résultat?
Ben, la première des choses, c'est que Madame von der Leyen me déçoit. Parce que j'aurais pu penser qu'elle aurait pu bourrer des urnes, comme elle le fait très fréquemment, et avec l'aide de Monsieur Donald Tusk, etc. Donc ça veut dire que peut-être les Polonais ont fait le nécessaire pour que les élections se passent librement, qu'il n'y a pas eu d'un seul coup 500 000 Polonais qui vivent aux États-Unis, qui ont tous voté pour le même homme, etc. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui pensent que les élections, c'est inutile. Vous voyez, si le peuple fait son boulot et empêche les gens de truquer, c'est plutôt, ça prouve que les élections, ça sert encore à quelque chose, quoi. Donc pour moi, la première des choses, c'est, on a prouvé que des gens, comme l'a prouvé Orban, comme l'a prouvé toute une série de gens, on pouvait voter en Europe et que parfois ça servait à quelque chose.
Oui, tout à fait.
C'est déjà bien.
En tout cas, le score n'était pas faussé, n'était pas truqué, parce que parfois, effectivement, c'est depuis quelques années, on a l'impression que c'est parfois un petit peu litigieux les résultats. Ça peut se jouer à quelques points près.
Ouais, c'est un peu comme les élections au Parti Socialiste, si vous voulez. Ça dépend. Celui qui bourre le mieux les urnes, quoi.
Et puis même sans parler de bourrage d'urne, on va dire vraiment d'un point de vue matériel, il y a aussi l'impression parfois que 90% de la presse écrite et presse orale, va vraiment soutenir un candidat par rapport à un autre, que c'est presque interdit de soutenir un autre candidat, alors qu'il a tout à fait le droit de se présenter. Enfin, je veux dire.
C'est-à-dire, si vous voulez, où quelqu'un professe des opinions qui sont illégales, et à ce moment-là, les tribunaux font leur travail et lui interdisent de se présenter, mais à partir du moment où il a passé les obstacles juridiques, il ne devrait pas y en avoir d'ailleurs, mais il se présente et puis c'est tout. Donc il ne peut pas y avoir, encore une fois, dans une démocratie, la morale n'a pas lieu d'être, c'est la loi qui compte. Donc si vous êtes conforme à la loi, vous êtes éligible.
Oui. En principe, oui.
Il n'y a pas, même si vous sentez des pieds.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc cette façon qu'on a de mélanger la morale et la loi est quelque chose qui m'exaspère depuis des années parce que c'est comme ça que commencent tous les camps de concentration.
Bien sûr. Et on peut avoir cette impression un petit peu en France, on peut avoir cette impression dans
d'autres
pays aussi.
Vous croyez qu'on est en France? Vous m'étonnez. Vraiment, je suis surpris. Non, mais. Je ne sais pas ce que vous lisez, mon garçon.
Moi, je lis que Libération. Moi. C'est
bon, ça va.
De temps en temps, Le Monde, quand même, quand je me sens un peu plus à droite. Et oui, donc on voit effectivement que là, on a un pays dans lequel l'élection est totalement libre, contrairement à la Roumanie. Alors moi, je ne voudrais pas parler forcément de manipulation directement dans le sens bourrage d'urne, mais c'est vrai qu'en Roumanie, il y a eu des manipulations très claires à la vue de tous, pour éliminer un candidat, déjà dans un premier temps. refaire une élection qui avait déjà été faite. Enfin bon, donc c'était...
Ensuite, il a passé miraculeusement, le gars qui était arrivé à 22, avec 22% des voix, à 52, ouais. Une semaine après, ce qui, je connais pas d'exemple historique que ça soit jamais passé.
Bah, cela dit, c'était quand c'était en 74 où Mitterrand avait quand même eu beaucoup plus de voix au premier tour parce qu'il était allié avec le parti communiste.
Communiste, oui, mais c'était du style 42 et 45.
Ouais, oui, c'est ça. Dire,
c'était puis en plus il y a l'époque il y avait le Canuet, enfin les ventres mous, là, les fromages blancs, les chrétiens démocrates et qui avaient donné leur voix à Giscard. Donc c'était oui quand. En quelque sorte, Mitterrand avait brûlé toutes ses cartouches. Et la fois d'après, en 81, heureusement, Chirac a trahi et a permis à Mitterrand d'être élu, puisqu'il a fait voter le RPR pour...
Oui, il n'avait pas donné de consigne de vote, c'est ça.
Il avait donné la consigne de vote aux gens du RPR de voter pour Mitterrand, ouais. Tout à fait. Il a trahi. Chirac, ça a été le fossoyeur de tout ce qu'on pouvait espérer.
Formidable.
Remarquable.
Enfin voilà donc pour la présidence polonaise. Ensuite, je voudrais parler un petit peu aussi. C'est pas forcément le sujet le plus passionnant, mais les ZFE, les zones à faible émission, vous savez, avec les voitures qu'on interdit, notamment dans les centres-villes. Et alors, on est en train de revenir dessus.
On n'interdit pas les voitures. On interdit les vieilles voitures, celles des
les
pauvres.
Les voitures, oui.
Celles des pauvres. Les riches, ils peuvent y aller.
Oui, c'est ça.
S'ils ont des voitures électriques, tout va bien.
Avec les fameux trucs critère 5, critère 4, critère 3, où en gros, si vous avez une voiture électrique, hybride, essence diesel récent, c'est-à-dire depuis 15 ans à peu près.
Et si vous êtes un paysan.
Ça va. Et sinon, voilà, tout ce qui est essence de avant 2009 ou diesel avant 2010, vous êtes dans les critères 3, 4, 5, et là, vous êtes le pouilleux
ça,
qui a
ça
pas
vous
le droit
apprendra à être pauvre. Salopard de pauvre.
Ouais. Et du coup, on met des subventions, mais qui marchent pas très bien, pour acquérir des véhicules.
Mais on peut rigoler si vous êtes à 50 euros à la fin du mois.
Oui.
Quand vous file une subvention de 1000 euros pour acheter une voiture, alors que vous pouvez pas en mettre 50.
D'ailleurs, vous savez ce que c'est l'âge médian de l'achat d'un véhicule neuf en France?
Je sais pas, ça doit être 30 ans par là, non?
60 ans.
60 ans?
60 ans.
Salopard de vieux. Entre les salopards de vieux et les salopards de riches, vraiment, on est un peu de pauvres d'ailleurs. 60 ans, oui, mais c'est...
Oui, à une époque, ça a été 30 ans plutôt. Mais oui, aujourd'hui, on est plus vers les 60. C'est compliqué pour beaucoup de gens qui travaillent pourtant d'acquérir un véhicule sans s'endetter. Ça, c'est encore autre chose. Bref, l'Assemblée nationale, à l'initiative des LR et du RN, a approuvé la suppression des ZFE à 98 voix contre 51. Alors après, il faudra...
Qui sont les corneaux qui ont voté les 51, on sait. On devrait donner leur nom.
Ça, c'est les socialistes, les écolos, les centristes, ça, ceux-là,
les écolos, les gens de gauche, ils veulent pas avoir de pauvres en ville.
Non.
Ah, c'est bien. Au moins, ils annoncent à couvert.
Non, en fait, ils demandent aux pauvres de venir à pied ou alors à vélo, en métro, mais ils ont pas le droit de venir en voiture. C'est très clair.
Ben, c'est toujours ce que j'ai dit. Si vous voulez, le but de tous ces gens de gauche, c'est quand même d'empêcher les pauvres de bouger, quoi, de les rattacher à la glèbe, comme la paysannerie autrefois. Dans le fond, on devrait proposer comme... programme ou LFI de rétablir le servage en France. Ce serait comme ça, vous n'aurez pas de problème.
Ouais.
Vous n'aurez pas bougé, vous serez toujours au même endroit. Stabilité de l'emploi, stabilité du logement, ils seraient vachement contents tous.
Et alors, je voudrais quand même avoir une petite discussion, on va dire. C'est-à-dire que les défenseurs des ZFE disent mais ça a réduit de 30% la concentration de dioxyde d'azote à Paris, ça a réduit les concentrations de particules fines, les PM2, PM5, PM10. Et selon Santé publique France, ces particules ainsi que le dioxyde d'azote sont responsables de 40 000 à 50 000 décès par an. Alors est-ce que finalement le bien collectif ne passe pas par ces ZFE?
C'est pas le coup qu'on m'avait fait pour le Covid, ça?
Si, bah si.
Qu'on allait, on allait économiser combien? 500 000 vies, 600 000 vies, million,
40 milliards de vies ont été sauvées.
Donc si vous voulez, dès que quelqu'un s'appuie sur la science et qu'il a une licence de sociologie, vous savez qu'il est en train d'essayer de vous enfumer, comme.
Oui, je suis un petit peu d'accord.
Moi, s'appuyer sur la science, c'est d'abord 40 000 personnes, c'est beaucoup, 40 000 personnes. Il y a combien de morts par an en France?
Combien de morts par an en France? Ça doit être dans les 600 000, un petit peu plus, peut-être 700 000, 750 000.
700 000, donc vous voulez dire que quasiment 7 à 8% des morts en France seraient dus à ces particules?
Oui.
Mais ils foutent du monde, non?
Ouais.
c'est vraiment de prendre pour des cons. Oui, c'est-à-dire, c'est l'argument, il faut pas que vous tuiez votre grand-mère. Mais c'est un argument qui est complètement fallacieux, parce que maintenant, on a le droit de la tuer, la grand-mère. Ça vient d'être voté, ça aussi. Si vous voulez, moi, je trouve ce pays admirable, puisqu'on avait aboli la peine de mort avec, comment il s'appelait, Badinter.
Badinter, oui.
Oui, pour les gens en bonne santé qui avaient commis des crimes, et maintenant, on rétablit la peine de mort pour les vieux et les gens malades.
Ouais.
Je trouve on a fait des progrès, non?
Vous inquiétez pas, on va étendre l'euthanasie aussi aux jeunes qui sont juste un petit peu dépressifs. Hein. On va leur filer un petit cachet s'ils ont 23 ans.
Si on l'étendait.
Oui.
À ceux qui manifestent après les soirs de match, c'est pas une bonne idée, ça?
Je sais pas, parce que normalement le principe de l'euthanasie, c'est quand même que c'est volontaire. Je sais pas s'il le demanderait volontairement.
Volontaire. Écoutez, il y a des moyens.
Bon, après, il y a des moyens
de vous faire parler.
De tordre la volonté, effectivement. Oui, tout à fait. On peut faire une propagande.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a rétabli la peine de mort en France et que personne n'en parle.
Oui, c'est clair. C'est un sujet quand même très important, ne serait-ce que culturellement, philosophiquement, d'un point de vue civilisationnel, c'est un basculement civilisationnel en soi.
Ah ben la main qui soigne soit celle qui tue.
Voilà.
C'est quelque chose qui était complètement interdit par toutes les médecines dans le monde entier.
Oui, normalement, on a quand même le serment d'Hippocrate. Je veux dire, on a l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste.
Mais c'est chaque fois qu'il s'agit de tuer. Moi, la seule justification que j'ai jamais trouvée à la peine de mort, si vous voulez, c'est pas la peine de mort, enfin, je veux dire, à l'euthanasie, c'est celle d'Attali qui trouvait qu'après 65 ans, quand il avait 20 ans, on servait plus à rien et que lui, il serait euthanasié quand il aurait 65 ans.
Ouais.
Allez, monsieur Attali, au travail. Mais vous avez dépassé de 15 ans votre limite, là. À mon avis, il faut quand même que vous fassiez quelque chose, quoi.
Ouais,
vos mots de l'importance.
Ouais, et puis il faut rendre aussi tout ce qui a été perçu entre temps, parce que là, du coup.
Oui, en plus, je suis sûr qu'il a dû accumuler plein de biens pendant ces 15 ans, là.
Ah, bah oui, et du coup, qu'ils sont indus.
Qu'ils sont indus, parce qu'il les a volés à des gens qui auraient pu les avoir à sa place.
Voilà, tout à fait.
Donc, monsieur Attali, faites votre devoir.
Effectivement. Oui, en plus de ça, il y a quand même beaucoup de députés qui sont considérés même comme de droite, qui ont voté ce texte-là. Alors, il y a le parti d'Éric Ciotti, eux, ils ont tous voté contre. Ils sont tous allés voter. Au RN, il y en a pas mal qui ont voté contre, mais il y en a quelques-uns qui ont voté pour aussi. Jean-Philippe Tanguy, d'autres comme ça. Et chez les LR, il y en avait beaucoup qui avaient piscine ou aquaponais. Enfin, je sais pas ce qu'ils avaient, mais visiblement, ils avaient des bonnes raisons de pas être là. Alors, ouais, je suis curieux de savoir
Ça m'étonne pas. C'est les rats de soc. Quand Pétain a pris le pouvoir, vous savez qu'il y avait eu un vote à l'Assemblée pour lui donner les pleins pouvoirs. Mmh. Il y a toute une série de radicaux socialistes et tout qui avaient piscine et qui avaient infirmerie ce jour-là, qui sont pas venus voter.
Ouais.
Et donc, il y a des moments où il faut savoir ne pas prendre de décision pour éviter de rester dans les écrits, vous savez.
Oui.
Donc, il faudrait prendre tous les noms de ces gens-là et savoir que ça veut dire que constitutionnellement, ils sont incapables de prendre une décision.
Mmh.
Si vous voulez, donc, s'il n'y a pas de raison de mettre un type à l'Assemblée, s'il est incapable de dire s'il est pour ou contre la peine de mort, quoi.
C'est clair. Et en plus de ça, on en a plein dans ceux qui avaient piscine pour ce vote, qui ont des prétentions présidentielles. Alors, ils veulent nous faire croire qu'ils sont capables de prendre des millions de décisions hyper difficiles tout seuls, on leur a mis conscience, mais ils sont déjà pas capables de prendre une décision collectivement. Ils sont quand même 577. Vous pouvez prendre une décision collective quand même de cette importance-là.
Je sais plus quel est le philosophe qui a dit que dans le domaine législatif, il y a des endroits où le législateur ne peut s'approcher qu'avec une main tremblante. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on n'a pas besoin de faire de législation. Un médecin de famille, etc., savait, je l'ai vu dans un certain nombre de cas dans ma famille, prendre la décision où les membres de la famille la prenaient ensemble avec le médecin. On n'a pas besoin de législation.
Ouais. Oui, en fait, dans ce débat qui a quasiment pas eu lieu, on a l'impression qu'on avait totalement oublié l'existence de la loi Leonetti. Et en fait, la justification essentielle de cette loi, de la loi sur l'euthanasie, qui est qualifiée de aide à mourir, je trouve ça absolument très disgracieux.
Mais on peut pas... Une aide à mourir, ça s'appelle un assassinat, non ?
Bah oui, en plus
c'est
ça.
C'est un synonyme, non ?
Il y a quand même une disposition qui entre en contradiction directe avec la non-assistance à personne en danger, à savoir le délit d'entrave. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aux portes de la mort de quelqu'un qui a demandé à se faire euthanasier, qui est sur le point de le faire. Visiblement, on n'a pas le droit d'essayer de le convaincre de la décision inverse. Enfin, je veux dire, là encore, comment ce genre de texte est justifiable ?
C'est comme on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller se faire avorter, quoi. C'est toujours pareil. Dès qu'il s'agit de la vie, si vous voulez, c'est un délit d'essayer de promouvoir la vie contre la mort, quoi.
Ouais.
Donc, tous ces... Allez, je vais dire un truc tout à fait étonnant et tout. Quand vous réfléchissez deux minutes, tout ça, c'est d'origine satanique. Faut pas raconter de conneries, c'est le diable qui est derrière tout ça.
Ouais.
Et puis c'est tout, quoi. Faut pas... On va la faire simple, hein.
Ouais. Ouais, ouais.
Non, mais... Alors, je sais, Dieu n'existe pas, ça, je suis d'accord.
Ouais.
Mais il y a plein de gens qui pensent que le diable existe. Même s'ils pensent que Dieu n'existe pas, ils sont persuadés que le diable existe.
Ouais.
Donc ça, moi, ça me semble un bon... Je suis pas certain que Dieu existe, mais le diable, je suis certain qu'il existe. Et là,
ouais.
Je suis certain qu'il est au boulot, là.
Ouais, bah oui, je suis assez d'accord. oui, on peut croire, en tout cas, dans
certaines
forces
du mal. D'ailleurs,
ils
ont des têtes de vendus au Satan, d'ailleurs.
Oui, bah je leur confierai pas quoi que ce soit, en fait. Et enfin, notre sujet philosophique du jour. Donc, après un magnifique parcours d'un point de vue sportif, le Paris Saint-Germain a atomisé en finale de Ligue des Champions l'Inter de Milan à Munich, avec la plus grosse marge, en plus de ça, jamais vue en finale de Ligue des Champions, qui est considérée comme, pour les clubs, la plus grande compétition qu'on puisse gagner.
Au monde,
au monde, vraiment. Et avec la plus grosse marge, la plus grosse humiliation. Donc, le club de la capitale qui attend ce titre depuis maintenant plus de 10 ans, depuis au moins le rachat du club par le Qatar, a vu ses supporters donc exulter dans la soirée de la victoire. Donc il est normal d'accepter, on va dire, dans ce genre d'événement une petite dose de chahut, d'autant plus avec l'alcool, la fête, bon voilà. Mais ce qui est censé être une fête a viré quasiment à l'émeute assez rapidement. Donc bilan, on a 2 morts, un à Dax. Alors apparemment, finalement, cette histoire-là, elle est décorrélée du truc. Enfin bon, je le dis quand même, un adolescent de 17 ans a été poignardé donc dans la soirée de samedi soir à mort lors d'un rassemblement. À Paris, un homme de la vingtaine en scooter a été percuté par une voiture. Il a par la suite succombé à ses blessures. Un policier a été touché par un tir de mortier d'artifice au visage et a été placé en coma artificiel. Son état est très préoccupant. 192 personnes ont été blessées, dont 22 membres des forces de l'ordre et 7 pompiers. Et 692 incendies ont été recensés, dont 264 véhicules incendiés. Plusieurs boutiques ont été vandalisées, notamment aux abords des Champs-Élysées, comme Chanel, Maison du Monde, Foot Locker. À Alençon, une voiture a percuté dans une agence AXA, mettant le feu au bâtiment. Enfin voilà, c'était un petit peu le bazar, c'est le moins qu'on puisse dire. Et une question se pose par rapport à cela, parce que nous sommes dans une civilisation qui met beaucoup en valeur les libertés individuelles. On apprécie ça, on en fait partie dans cette maison, institut des libertés. On n'est pas des communistes, on n'est pas des fascistes, on n'est pas pour la mainmise de l'État sur absolument tous les domaines de la société.
Mais on est pour que l'État fasse son travail.
Mais effectivement, on est pour que l'État fasse son travail.
Ce qui ne fait plus depuis un certain
moment. Et donc il y a un débat tout à fait récurrent, même dans, et je dirais même surtout d'ailleurs dans les sphères libérales, c'est faut-il privilégier la sécurité ou la liberté ? Et alors, on est tous d'accord pour dire que la société idéale, c'est ni d'une part une société dans laquelle on peut absolument faire ce qu'on veut et c'est le bazar, ni une société, un état policier où il y a un flic à chaque coin de rue, des caméras partout, à reconnaissance faciale, etc., un crédit social, voilà. On aimerait, autant que possible, presque ne pas avoir besoin de la police et être tous des citoyens parfaitement responsables et respectueux les uns des autres, mais force est de constater que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où placer le curseur ? C'est la discussion que je voudrais avoir.
Bah, c'est un truc qui est vieux comme la civilisation. Alors, on va essayer de répondre comme ça, tiens. Ce que disait Solzhenitsyn, vous savez que c'est un de mes grands hommes.
Bien sûr.
Il disait quelque chose qui est intéressant, c'est si les hommes sont égaux, ils ne sont pas libres. Et si les hommes sont libres, ils ne sont pas égaux puisqu'ils ont des talents différents. Donc, entre la liberté et l'égalité, je choisirai toujours la liberté. Mais la liberté d'après Rousseau, qui n'est pas un de mes grands âmes, mais enfin qui a écrit dessus que des choses qui ne sont pas complètement idiotes d'ailleurs, il disait « si les citoyens savaient à quel point la liberté est contraignante, ils n'en voudraient jamais ». C'est-à-dire que la démocratie qui s'appuie sur la liberté, ça s'appuie aussi sur un esprit civique individuel qui permet d'éviter l'absence de la police. Bien. Et donc, vous avez à ce moment-là, s'il y a des gens qui ne respectent pas cette liberté individuelle de ne pas faire le mal, ben, vous avez un léger problème. C'est que, ayant commis un crime, des fautes, etc., ils doivent être punis. Et alors là, qu'est-ce que vous allez leur offrir comme punition ?
C'est la grande question.
Ben moi, si vous voulez, bon, la punition qu'on essaye d'offrir, c'est la prison, ce qui est complètement idiot.
Généralement, en plus de ça, avec un double problème, c'est-à-dire d'une part des peines courtes lorsque vous êtes condamné, mais en plus de ça, il faut être condamné plusieurs fois pour vraiment faire de la prison. Là où, par exemple, un psychiatre, pédopsychiatre comme Maurice Berger, qui a beaucoup traité la question de la délinquance et notamment de la notion de la violence gratuite, qu'il a affaire à beaucoup d'adolescents et tout, il dit ce qu'il faut faire, c'est peut-être ne pas mettre des peines de prison de 5 ans au bout de la 50e condamnation, mais plutôt, dès qu'ils sont adolescents, faire des peines de prison très courtes. Peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, pour déjà dissuader les gens de recommettre...
Ce serait penser que la prison est dissuasive, ce qui reste à prouver. Mais donc, nos démocraties fonctionnent avec l'idée que la dissuasion... La peine, en quelque sorte, la crainte de la peine suffit à empêcher ce genre de crime. Alors, je connais un pays où la dissuasion empêche ce genre de crime, il n'y en a aucun, jamais, c'est Singapour. Alors, c'est vachement bien, Singapour, vous attrapez un de ces gars qui fait brûler une voiture, là, et il reçoit 10 coups de fouet. Et ça lui fait très mal aux fesses.
Oui.
Sa vie n'est pas mise en danger, etc., mais il reçoit des coups de fouet. Et il se souvient des 10 coups de fouet toute sa vie.
Ouais.
Et donc, il recommence jamais.
Est-ce que ce serait envisageable dans une société comme la nôtre, ça ?
Je ne sais pas si c'est... Alors, il faut faire la différence entre ce qui... C'est ce qu'on... si j'ose dire, autrefois, dans les lycées, etc., où j'ai longuement sévi, j'ai cru que j'en sortirais jamais tellement j'étais mauvais élève d'ailleurs.
Je pense que c'était notre cas à tous. Hein.
Tu sais, je suis resté, je sais pas combien d'années, j'ai cru que ça n'en finirait jamais. Vous aviez des professeurs qui vous tapaient dessus avec beaucoup d'entrain, vous mettiez des doigts comme ça, vous receviez des coups de règle. Les grands coups de pied dans le derrière, j'en ai reçu plus qu'à mon tour, etc. Donc, il y avait surtout quand vous avez affaire à des garçons, parce que je peux dire du mal des gens, mais je suis persuadé que 90 ou 95% des crétins qui brûlaient des voitures étaient des garçons.
Ah oui, même je pense on peut dire 99%, oui.
Voilà, donc il n'y avait pas de filles qui étaient en train de courir.
Il y avait très très peu de filles.
Donc, le problème, si on part du principe qu'il y a un certain nombre de choses qui font peur aux garçons, quand ils sont jeunes à 18 ans, comme par exemple de recevoir une remarquable raclée de... mais qui sont inapplicables en l'état, on est laissé avec des choses qui leur font pas peur, et donc, ils continueront.
Oui.
Donc la question c'est, quand vous préconisez une punition pour des garçons idiots, est-ce que je prescris quelque chose qui ne marchera pas et qui risque d'entraîner de plus en plus vers la criminalité, mais qui n'est pas bien considéré par la Cour européenne des droits de l'homme, ou est-ce que je lui fais... Je le confie 5 minutes à 2 garçons robustes dont c'est le métier et qui lui filent quelques coups de fouet. Quoi. C'est, un des grains pour, c'est une espèce de longue bambou, de coups de bambou qui vous file. Ça fait vraiment mal affreux. Quoi.
Ouais, j'imagine, oui.
Et donc, la vraie question, c'est celle que posait Gary Beckett, qui était un grand économiste, qui a le prix Nobel pour ça, qui a fait des tas d'études en économie. d'état d'études sur la criminalité. Il a dit qu'il n'y a pas d'exemple dans le monde que si le crime paye, la criminalité s'arrête. Mmh. Elle monte tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un moment où dans les yeux de celui qui va dans l'esprit de celui qui va commettre le crime,
ouais,
le jeu en vaut plus la chandelle.
Ouais.
Alors, voilà, c'est... Donc moi, je trouve que ce serait assez satisfaisant d'aller mettre quelques coups de fouet à ces gars-là et puis ensuite de les renvoyer chez eux.
Ouais.
Alors je sais que c'est pas convenable, mais encore une fois, si vous voulez gouverner, c'est choisir entre deux mots.
Ouais.
Est-ce que vous préférez ne pas mettre des coups de pied dans les fesses à des gamins qui sont potentiellement des criminels et les arrêter quand il est temps? Ou est-ce que vous préférez continuer à suivre des prescriptions qui ne marchent jamais?
Ouais.
C'est ça la vraie question. Donc, moi, je n'ai pas d'opinion sur la question. Mais je sais, encore une fois, je vais raconter une histoire que j'ai dû raconter 10 fois, parce que quand on est vieux, on a le droit de se repérer. C'est quand j'étais en Mathelem à Auch. Mathelem, c'était la classe de matin. C'est là où on faisait des matins. J'étais en même temps qu'avec moi, il y avait les deux piliers du FC Auch. Vous savez, les piliers, c'est ceux qui jouent devant, le numéro 1 et le numéro 3. C'est mmh. Ils avaient 18 ans.
Plutôt robuste.
Plutôt robuste, oui. Pas très grand, mais costaud, ouais. Dans les 120 kilos. Quoi.
Bonne concentration.
Voilà, et puis j'ai mon professeur de philo, imaginez-vous, c'était un gars que j'aimais bien d'ailleurs, qui était ancien commandant de la Légion, agrégé de philosophie, copain de Marcel Cerdan, enfin vous voyez, qui avait été... Et donc il nous faisait des cours de philo, et puis nous on était là, le philo, on m'attelait, mais on n'en a rien à foutre. Donc on faisait du bruit, on faisait les cons, enfin normal quoi. Et alors il nous a prêché, il nous a dit écoutez les gamins, là vous êtes 3 là. Si vous voulez, je vous attends tous les 3 ensemble à la sortie du lycée, dans le terrain vague qui est là-bas derrière. À 16h, je vous attends tous les 3. Hein. Et on règle nos comptes. J'y suis pas allé, aucun des deux autres. et on lui a foutu la paix.
Ouais.
Et donc, si vous voulez, quand vous avez affaire à des gamins de 17, 18 ans, voir un gars de 25, 30, 40 ans qui s'est battu, qui a des cicatrices partout, qui a une sale tête, et qui vous dit, ben, je m'occupe de vous si vous voulez, et on fait ça à la loyale, hein, pas de... Eh ben, c'est fou ce que ça calme les esprits. Or, aujourd'hui, ces gamins, qui ils ont en face d'eux quand il s'agit de les punir?
Des femmes. Des femmes, beaucoup, oui, des institutions.
Des femmes, d'abord, les juges sont des femmes,
ouais.
Les professeurs sont des femmes, ils voient jamais que des femmes.
Ouais. Et puis il y en a qui n'ont pas trop connu leur père non plus, en plus.
Il y en a pas, c'est pas le père. Normalement, c'est le rôle du père de lui casser la gueule.
D'ailleurs. Un peu, ouais. Ouais.
Moi, mon père, il m'a pas cassé la gueule, mais de temps en temps, il me regardait comme ça quand j'avais fait une connerie particulièrement intéressante. Il avait la peau de son front qui se dépliait comme ça. Il avait l'air tout fâché, et j'étais absolument liquéfié, quoi.
Ouais.
Il m'a jamais touché, mais le simple fait de voir la peau du front se déplier, je me dis, oh là 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 là. Il est fâché. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut partir d'une certaine psychologie du garçon, c'est pas une fille.
Oui.
Le garçon, si vous voulez, il a peur de se faire casser la gueule par le grand lion.
Oui.
Il espère en même temps, parce que si un jour il casse la gueule au grand lion, ce sera lui le grand lion. Donc il y a une espèce de lutte physique pour montrer qu'on est capable d'être le grand lion, quoi, ouais. D'être... Et cette espèce de refus de considérer la spécificité des garçons entre 15 et 23 ans, moi j'ai toujours dit que si j'étais juge, jusqu'à 25 ans, la quasi-totalité des gamins que j'aurais à juger, c'était du ressort des grands coups de pied dans le derrière, mais qu'après 25 ans, le type est responsable de ses actes, mais vers 25 ans, il est tellement con, il est tellement bourré de testostérone, il réfléchit comme une pendule, que ça sert à rien. Donc, dans la quasi-totalité des civilisations, les gars de 15 à 23 ans, vous avez un truc qui s'appelait l'armée, dans lequel on les foutait pour qu'ils aillent se faire casser la gueule par des vieux.
Ouais.
Et on a décidé une fois pour toutes qu'on ferait pas ça. Et du coup, tiens, je vous en raconter une autre qui me paraît. C'est qu'en Afrique, ils ont des gros problèmes avec des éléphants qui sont devenus sauvageons. C'est-à-dire que dans les tribus d'éléphants, apparemment, ceux qui s'occupent de l'ordre, c'est les grand-mères. Les grand-mères éléphants, et elles arrivent, et quand il y a un jeune mâle qui fait le con,
ouais.
Elle lui casse la gueule bien bien, mais il paraît que c'est du robuste. Et donc, il y en a certains qui quittent la tribu, qui deviennent sauvages, en quelque sorte, et qui vont en foutre le merdier dans tous les villages, qui cassent tout, et qui sont insupportables. Donc, confions la punition des adolescents
aux grand-mères.
Aux grand-mères. Et je vous assure que ça ne va pas traîner. Ils arrêteront tout de suite. Le but, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien connu que les jeunes, c'est une porte. Ils l'ouvrent pour voir si elle est ouverte. Ils poussent. Tant que la porte ouvre, ils poussent. Donc nous, ils poussent des portes. Il n'y a jamais personne qui pousse dans l'autre sens. Ben, ils continuent à pousser jusqu'au jour où ils se font tuer.
Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que quand il y en a qui arrivent à pousser la porte là du magasin Chanel, tous ceux qui sont juste devant, ils savent qu'ils vont pouvoir essayer de voler un sac, partir, ils vont pas se faire choper. Bon bah ils vont le faire. Hein.
Ils vont le faire et celui qui aura cassé la porte, qui aura réussi à enfoncer la porte, il sera le héros.
Oui. Et pour ces gens-là, oui, c'est sûr.
Il sera le héros. Donc, il recommencera. Et s'il peut y amener un 5 Chanel à sa petite amie, elle sera folle de bonheur.
Mmh, ouais.
Encore une fois, il y a deux problèmes là. Le premier problème, c'est la criminalité en elle-même. Et le deuxième problème, c'est comment vous traitez les gens, les garçons, entre 16 et 24 ans. Allez. Là où ils ont quelques années, où ils sont vraiment complètement idiots.
Oui.
Il ne faut pas les confondre. Il faut peut-être qu'on fasse des espèces de punitions spéciales pour les 16 à 24 ans.
Ouais. Oui, tout à fait, c'est entendable. Hein.
Et les punitions, je sais pas. La solution de Singapour me paraît en tout cas pas chère pour le budget.
Oui, non, c'est sûr,
c'est pas cher. C'est moins cher que d'avoir mettre 50 000... militaires comme ils ont fait à Paris. Où...
Oui, parce que c'est ça. En fait,
ça coûte la peau des fesses, ce truc.
Le souci, c'est que la seule... Alors, on doit, en gros, accepter deux voies par rapport à cela. Soit on accepte complètement cette espèce de chaos, soit on va démultiplier le nombre de protocoles, de matériel, etc., pour essayer de limiter autant que possible la délinquance, le crime.
Et pourquoi ça se passe qu'en France, en Europe?
Bah après, il y a aussi un autre problème, c'est quelle population commette ce genre de...
Oui, mais
il
y en a à peu près la même population. Bon, en Allemagne, ils ont des Turcs.
Ouais.
Mais c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil, mais... Donc, pourquoi en France... J'ai écouté un jour une émission qui montrait que brûler des voitures le 31 décembre, c'était une spécificité française. Quoi. Personne, ouais. Personne d'autre ne faisait ça en Europe.
C'est la culture française.
C'est la culture française à son meilleur. Donc... Il y a aussi pour que une justice soit efficace, il faut qu'elle soit rapide.
Oui, aussi, oui.
Il faut qu'elle soit rapide. Si vous devez attendre 10 ans avant d'avoir un rapport entre la punition et le moment où vous avez fait la bonne bêtise, c'est pas une justice qui est lente est une absence de justice, quoi. C'est oui. Donc il faudrait trouver des façons de les punir, qui soient extrêmement rapides. On les attrape et ils prennent leur raclée, quoi. Et ils s'en souviendraient.
Ouais, ouais.
Donc,
faire un petit stage
on a un certain nombre de
aussi.
Principes qui on ne touche pas à l'intégrité physique des gens.
Ouais. Vous vous dites pourquoi pas dans l'idée.
Moi je dis chez des garçons de 16 à 24 ans, d'abord ouais. Ils passent leur temps à se mettre sur la gueule, et ensuite à ce moment-là il faut interdire le rugby, quoi. Si on n'a plus le droit de se mettre des claques.
Il faut interdire le rugby, tout ce qui est sport de combat aussi.
Hein. La boxe, le rugby, tout ça.
Sport de contact, voilà. Et on fera tous du badminton et du golf et on sera contents.
Oui. Ça va être passionnant, dans le monde où il n'y aura que des hommes qui jouent au badminton, je ne peux pas attendre, quoi. Le jour où les Martiens débarqueront, on verra qu'il faudra les se battre, mais vous savez, c'est ce bon 16-17, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd, quoi.
Ouais.
Non, mais c'est-à-dire que l'analyse que vous présentez, qui est très intéressante, pose comme principe dès le départ qu'il y a un certain nombre de choses qui ont toujours marché dans l'histoire.
Ouais.
Comme les coups de fouet à Singapour, là,
ouais.
Qui sont interdits dès le départ.
Oui. Et on doit composer sans, ouais, effectivement.
Et donc, la solution, c'est pas, ça ne peut pas être ça.
La solution, c'est la surveillance.
La solution, c'est de leur dire qu'on les aime et tout. Ils s'en foutent, d'ailleurs. Donc, encore une fois, moi, je soutiens que des garçons entre 18 et, je sais pas quoi, 16 ans et 24 ans, c'est complètement idiot.
Ouais.
Donc il faut leur faire des trucs dont ils se souviennent instantanément. Ils font la liaison dans leur esprit un peu débile entre ce que j'ai fait et la branlée que j'ai pris, quoi.
Ouais.
Ça, ils peuvent connecter à ce moment-là.
Ouais, effectivement.
Moi, j'ai bien vu sur un terrain de rugby, quand il y en a un qui faisait un imbécile, dans chaque équipe, il y a un type du rugby dont le boulot est s'occuper de ceux qui font les imbéciles. Et puis, quand il y a le mêlée ouverte, on entend ploc. Et puis, le type, il est à plat, quoi. Et oui, c'est bien triste, ma pauvre dame, mais en même temps, il n'emmerde plus personne, quoi.
Ouais.
Il y a des... Si vous partez du principe que la seule chose qui sera efficace est interdite, ça ne va pas s'améliorer.
Mmh. Ouais. Et puis on a aussi un autre problème, malheureusement. J'avais vu une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que selon la culture d'origine, on ne perçoit pas les peines de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, pour un Français d'origine, prendre 2, 3, 4 ans de prison, c'est une honte absolue. On se dit, oh, attends, j'ai atteint le plus bas du plus bas que je pouvais atteindre.
Si vous êtes confucéen, un chinois, non seulement vous, mais toute la famille est déshonorée. Alors,
ouais.
C'est effrayant, on ne peut pas être pire.
Oui, c'est clair. Et pour d'autres populations, on se dit que bon, 2 ans de prison, c'est pas très grave, et puis on ressort, et puis voilà, et puis la vie reprend, quoi. Et donc, par conséquent, alors c'est dramatique, mais par exemple, le Danemark est en train de plancher, je crois que ça a déjà commencé même, sur le fait de proposer des peines différentes en fonction de l'origine, on va dire. Voilà. Bah, alors, moi je suis bien d'accord, on a un fondement civilisationnel.
Tous devant la loi.
Tout à fait, on a un fondement civilisationnel qui est l'universalisme. Alors, l'universalisme, ça veut un peu tout et rien dire à la fois, mais on va quand même pas commencer à différencier les jugements en fonction de si votre père est...
C'est ce qu'ils font en Angleterre en ce moment. Si vous êtes blanc, père de famille, etc., la peine est beaucoup plus lourde que si vous êtes d'un milieu défavorisé.
Ouais.
Mais ça, c'est inscrit dans la loi maintenant. Donc, ils le font dans l'autre sens. Il y a nous, quand on était jeunes, au lycée, etc., sur le match ou n'importe quoi, on faisait des bêtises dans la rue.
Oui.
Mais dès qu'il y avait un flic qui arrivait, parce qu'il avait un costume bleu, là, il nous disait, allez, les enfants, allez vous coucher.
Oui.
Bon, on disait, oui, monsieur l'agent, puis on filait, quoi.
Oui. La grande différence, oui.
C'était quand même pas tout à fait autre chose, hein.
Oui.
Quand vous étiez à 15 dans vos 4 chevaux, place du Capitole à Toulouse, on n'avait pas l'air très malin, mais en faisant des choses, on se marrait bien, quoi.
Oui.
Mais l'idée, c'est pas d'empêcher les jeunes de faire les cons, d'aller rigoler et de courir dans la rue.
Oui.
Ça les maintient en forme. L'idée, c'est, il doit y en avoir, comme toujours, il doit y avoir 1% de ces gars qui vont faire tous les crimes. Je raconte toujours l'histoire de ma mère, qui vivait à avenue de Suffren, en face de l'UNESCO, qui est sortie, bon, c'était une vieille dame qui avait 75 ans. Elle est sortie chez elle, elle s'est fait arracher son sac, elle n'osait plus sortir.
Ouais.
C'est-à-dire, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut protéger la vieille dame qui se fait arracher son sac, ou est-ce qu'il faut protéger le voyou qui lui arrête,
bien sûr,
qui lui arrache.
Bien sûr, parce qu'on réfléchit effectivement beaucoup en termes de, surtout les grands droits de l'hommiste d'aujourd'hui.
Mais ils réfléchissent contre les droits de ma mère.
Tout à fait.
Les droits de ma mère ne sont jamais pris en compte.
Voilà, on pense toujours à la liberté du délinquant, du criminel, etc. Mais ce que disait Nayib Bukele, donc le président du Salvador, c'est très intéressant. Il dit, oui, d'accord, j'ai enfermé des dizaines de milliers de personnes. Mais regardez combien de millions de personnes j'ai libérées.
Et voilà, c'est ça.
Parce que ça, c'est vrai.
Il n'y a plus de criminalité au Salvador, ça marche très bien, merci, quoi. Alors qu'il y avait 10 ou 15 000 imbéciles tatoués des pieds à la tête qui foutaient la population en coupe réglée.
Absolument rien faire. Le boulot même le plus insignifiant, vous ne pouviez pas livrer des pizzas dans la moitié des coins du pays parce que vous pouviez à tout moment être intercepté par des types qui travaillent pour un cartel.
C'est-à-dire que le livreur de pizza, il devait être accompagné de 3 gardes du corps, quoi.
Ouais.
Ce qui augmente le coût
de la pizza.
En plus, il la bouffe.
Ouais.
Il n'est même pas certain d'être survivant.
Il faut bien la bouffer. Ouais.
Il n'y a plus rien à bouffer. Donc, c'est toujours la même chose. Il faut trouver un équilibre entre quelque sorte ma mère et celle qui lui a arraché son sac. Mmh. Mais il ne faut pas qu'elle ne puisse plus sortir de chez elle. À ce moment-là, ça veut dire que c'est ma mère qui est en prison.
Oui. Oui.
Et ça, c'est pas acceptable. Elle a rien fait qui la force.
Ouais, elle est en prison chez elle. Ouais.
Elle est en prison chez elle. Et donc, le choix, c'est. Mais, et la prison, c'est pas la solution pour le gamin qui l'a attaqué. C'est pas la solution pour ma mère, mais c'est pas la solution pour le gamin qui l'a attaqué. Mmh. Donc, peut-être faudrait-il réfléchir à des punitions qui seraient très. Par exemple, dans un certain nombre de pays asiatiques, non seulement ils reçoivent des coups de fouet, mais c'est en public. Dans leur quartier.
Devant tout le monde.
Devant tout le monde. Et qui se rendent compte, qui se mettent à pleurer.
Oui, c'est pas dans une salle calfeutrée où derrière on remet un t-shirt par-dessus, on dit hop, il s'est rien passé.
Non, c'est que là, il y a un côté exemplaire à la punition. Mmh. Et quand on leur a bien arraché la peau des fesses.
Oui. Donc encore une fois, on introduit le facteur honte aussi.
Le facteur honte, et puis celui qui s'est fouetté devant tout le monde. Celui qui a pleuré, il n'est pas très populaire auprès des filles. Ouais. Après.
Est-ce qu'on a le droit de filmer pendant
Tout le monde le filme en ce moment.
Là, c'est la double peine. Là, on peut vous le ressortir à n'importe quel moment. Ceux qui ne l'ont pas vu sur le moment, ils peuvent revoir.
Donc, tout ça, si vous voulez, c'est... Un monde où elle ne punit pas les méchants est un monde invivable.
Oui, bien sûr. Bah, la pitié envers le loup n'est que la cruauté envers l'agneau. Mmh. Et après, aussi, c'est toujours la gravité des peines. On peut aussi en discuter éternellement.
Mais il faudrait faire des peines très courtes.
Ouais.
Et dont on se souvient bien.
Courte et intense, ouais.
Et rapide.
Rapide après.
Et très visible.
Ouais.
Très visible. Ouais. Je plaide pas pour un retour au châtiment corporel, mais en fait, si.
Un petit peu quand même. Dans certaines conditions.
Je vous assure en tout cas que si vous voulez que le problème soit réglé, à la place de faire venir 10 000 CRS français,
ouais.
Vous faites venir 5 000 CRS marocains et vous leur donnez l'ordre qu'il n'y ait pas de...
Bah, on avait fait venir de la police qatari pendant les JO, hein.
Même le d'autres pays aussi. D'ailleurs. Donc, parce que je ne sais pas si vous remarquez, quand ils n'ont jamais ces troubles chez eux.
Ils ont d'autres problèmes, mais pas de cet ordre-là.
Les gamins de 18 ans au Maroc, ils s'en foutent qu'ils sont cassages, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de la police.
Oui, bah oui.
C'est pas idiot.
Oui, bah.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que personne n'a peur de notre police.
Oui, c'est ça, absolument.
Personne n'a peur.
Bah oui, elle a le droit de pas faire grand-chose. Enfin, oui.
Donc si personne n'a peur, on peut aussi bien faire l'économie de la police, non ?
Oui, bah clairement. Bah à chaque fois, tout ce qui est proposé, c'est toujours plus de caméras, mettre des portiques absolument partout. Alors on rentre dans n'importe quel bâtiment, il faut enlever sa ceinture, ses chaussures, mettre son sac dans le lecteur rayon X. C'est juste invivable. Surtout que on a 1% de la population qui commet l'essentiel de ces délits, et derrière, on punit 100% de la population, littéralement.
C'est une bonne question, donc. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les sociétés qui ne prennent plus comme boussole essentielle la liberté, c'est-à-dire la liberté de se promener, d'être libre, de ne pas être attaqué, etc., où l'État ne fait plus son devoir de maintien de l'ordre public, ça c'est toujours mal terminé. Mmh. Toujours dans les meilleures intentions du monde, mais ça c'est toujours mal terminé.
Oui, bien sûr. Voilà, toutes les plus grandes privations de liberté et de sécurité aussi d'ailleurs parfois ont été faites au nom du bien. Toutes les dictatures sont nées au nom du bien.
Absolument, c'est toujours
c'est Staline, les Pinochet,
donc,
etc.
Absolument. Oh, oui. Donc bon, pour répondre à votre question, c'est le problème est très simple. Comme on le voit toujours, et ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique de l'attaquer à sa racine.
Oui. Oui, parce qu'après, il y a aussi deux choses. C'est que certains vont critiquer, et là-dessus, je suis moins d'accord, vont critiquer le dispositif de police. Selon moi, je l'ai dit avant même qu'il y ait ces heures, avant le match, Il n'y a pas de dispositif de police possible pour empêcher ce qui s'était passé là sur le court terme. Il aurait fallu 250 000 flics pour l'empêcher.
C'est même pas, je ne sais même pas. Encore une fois, vous avez des gamins qui cherchent la bagarre.
Vraiment. Oui.
Bon. S'ils cherchent la bagarre, qu'il y ait 1000 flics ou qu'il y ait 20 000 flics, ils vont la faire pareil.
Oui.
Donc, ce qui crée la bagarre, c'est l'existence des flics de l'autre côté qui perçoivent comme indus. Donc, vous avez le choix de ne pas mettre de flics. Et à ce moment-là, c'est n'importe quoi. C'est...
Oui.
Ou de mettre des flics, il n'y en aura jamais assez. Alors, ce que vous pouvez faire alternativement, c'est ce que font un certain nombre de gens, c'est qu'ils les arrêtent. Les flics sont là, ils arrêtent ceux qui réussissent à choper, quoi. Et vous leur mettez des bracelets avec interdiction de sortir de leur quartier pendant 10 ans.
Oui.
Ça, c'est pour un bon lieu. Vous les assignez à résidence, en quelque sorte, avec un bracelet électronique. Dès qu'ils cessent de bouger, etc., on va voir pourquoi ils ne bougent plus ou pourquoi ils bougent en dehors du quartier.
Ouais.
Ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, c'est isoler les 10% de crâneaux, la loi de Pareto, et leur dire, vous ne revenez plus jamais dans Paris.
Oui.
Mais qu'il y ait une punition qu'ils comprennent, qu'il y ait une relation entre ce qu'ils ont fait et la punition qui arrive juste derrière.
Oui.
On peut pas... Parce qu'on me dit qu'il faut préserver l'intégrité physique de ces gamins. Très bien. Mais entre vous et moi, pour être parfaitement brutal, ils vont en prison. Ils vont se faire violer.
Pas tous, mais oui, il y a des risques, oui. Oui.
Et donc, vous prenez le risque de viol en prison de ces gamins.
Oui.
À la place que de recevoir de grosses claques. Qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Et puis en plus de ça, enfin, techniquement, ils seront, dans la plupart des cas, peut-être condamnés à un an de prison avec sursis. C'est-à-dire qu'en fait, ils auront un bracelet électronique pendant 6 mois, et puis après, ce sera fini. Et encore. Donc en fait, ils iront jamais en prison. Et effectivement, il faut faire une distinction fondamentale, et pas mélanger tout dans ce qu'on appelle l'insécurité. Il y a une différence fondamentale entre les délits. Vous jetez une barrière, vous allez voler un sac à la boutique Chanel et commettre un crime, c'est-à-dire un viol, un meurtre, etc.
Mais si là, pour vous le coup, commencez la prison, sur un flic, est-ce que c'est un crime ou c'est un délit ?
J'ai envie de dire ça dépend.
Quiconque agresse un flic, c'est un crime. Sinon, vous n'en sortirez jamais.
Ouais, peut-être.
Si vous ne protégez pas la police, alors je vous dire un truc. Ça,
ouais, vous avez raison.
Vous protégez la police ne vous protégera pas, ça c'est sûr. Alors là, il y a une règle qui ne pense pas, qu'il n'y a pas de... Donc, déjà, ils font un métier de chien. En plus, personne ne les aime.
Non, c'est sûr, c'est pas un métier facile, ouais. Ils ont des heures pas possibles.
Donc, si vous voulez, pour protéger la liberté, il faut être très dur.
Ouais, il faut être impitoyable.
Il faut être impitoyable.
C'est le grand souci. Et parfois aussi, il y a des situations un peu exceptionnelles. C'est un peu ce à quoi était confronté Bukele, où autant que possible, sur une période courte, on espère, il faut parfois restreindre un certain nombre de libertés pour pouvoir les rétablir juste derrière.
Non, pas un certain nombre de libertés. La liberté d'un certain nombre de gens. C'est pas du tout la même chose.
Oui, mais par exemple, Bukele, il a quand même mis temporairement des innocents en prison qui ensuite autant que possible ont été relibérés en leur disant bon désolé vous êtes tombé au mauvais endroit au mauvais moment mais enfin vous avez un
en tout cas,
deux
en étant allé en prison ça n'a certainement pas donné l'idée surtout de Salvador de continuer dans cette voie de prospérité individuelle ils ont dû se dire je vais essayer de prouver que j'y étais pas dedans pour pouvoir sortir et puis ensuite ils vont tout faire pour pas y re-rentrer
oui ça c'est sûr ça c'est sûr
moi je vous dis c'était horrible mais dans la Chine communiste dans les grandes années, les criminels, hein. Bon, on les exécutait d'une balle dans la nuque, ce qui n'était pas gay.
Ouais.
Ça me paraît un peu excessif quand même. Mais la famille devait payer la balle.
Ah ouais, carrément, en plus.
C'était une façon, donc tout le monde savait qu'il y avait une note qui était présentée à la famille pour payer la balle et l'exécution.
Waouh.
C'est-à-dire que vous étiez déshonoré pour toujours.
Ouais.
Donc je ne dis pas que c'est bien, mais c'est fou.
Bien sûr.
Vous faites tomber votre portefeuille à Hong Kong, une demi-heure après, il est revenu au commissariat. Hein. Mm-hmm. Jamais vous le voir.
Ouais.
C'est agréable, vous savez, moi j'ai vécu dans ces pays en Asie.
Bien sûr.
Où il ne se passe jamais rien, j'ai jamais un crime et tout. C'est vachement bien.
Mais après, est-ce qu'on pourrait, parce qu'en Chine spécifiquement, ils ont le régime de crédit social, etc.
Oui, mais ça, c'est une déclinaison de ça. C'est avec le, par exemple, si vous traversez quand il y a pas, quand le feu est pas ouvert pour vous, à pied, on vous enlève des crédits sociaux parce que vous êtes en train de fouiller.
Alors ça, nous chez nous, c'est impensable.
C'est impensable, mais par exemple, on mettrait des crédits sociaux sur les types en bicyclette qui vont à sens unique, à fond la caisse et que je manque de renverser en scooter et qui me foutent des émotions.
Ça,
un vieux monsieur comme moi, ça me paraîtrait pas une mauvaise idée parce que à partir du moment où il n'y a jamais aucune sanction sur les bicyclettes, remarquez qu'il y en a, parce qu'il y en a un paquet qui se retrouvent à Garches dans des petites voitures qui conduisent avec les mains, quoi. Le nombre d'accidents corporels qu'il y a à Garches qui vient des bicyclettes, c'est monstrueux. Donc, à force de ne pas protéger les gens, de ne pas les empêcher de faire ce qui est interdit, on arrive à des sociétés qui deviennent ingérables.
Je suis bien d'accord.
Donc, le choix, c'est encore une fois pas entre la liberté et l'égalité, c'est entre la liberté et la compréhension par chaque citoyen qu'il a qu'il doit faire ce qu'il faut pour qu'il reste libre. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution collective, il n'y a que des solutions individuelles.
Mais d'ailleurs, beaucoup de penseurs caricaturent le libéralisme en disant que voilà, c'est la liberté individuelle totale, etc. Mais il y a une notion qui vient en complémentarité de la notion de liberté individuelle, c'est la notion d'éthique de responsabilité.
Il y a l'éthique de responsabilité, et surtout, un libéral, il respecte la loi.
Ouais.
Puisque le libéralisme, c'est ce qui empêche l'État de faire des bêtises, c'est la loi. Donc,
à condition que la loi ne soit pas considérée comme tyrannique.
Voilà, à condition que la loi, ça c'est saint Thomas d'Aquin, mais c'est qui a d'ailleurs été un profond libéral. Et donc voilà, mais encore une fois, si vous voulez, à partir du moment où vous dites que vous devez appliquer des conditions collectives pour qu'il y ait un maintien de la liberté individuelle, c'est que vous avez loupé une marche. Ouais. Vous ne pouvez pas mettre des conditions collectives pour protéger la liberté individuelle. Ouais. C'est l'individu, ou alors, il faut que les individus puissent être armés.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire redéléguer, enfin, pas déléguer du coup, mais redonner une partie des droits qui ont été justement délégués à l'État en termes de maintien de la sécurité. Si l'État n'est plus capable de le faire.
J'ai de la famille dans l'Oklahoma, qui est au-dessus du Texas aux États-Unis. Ouais. Ben, si vous voulez, tout le monde est armé. Je vous assure qu'il n'y a jamais une attaque de station-service pour prendre la caisse de la station-service.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il y en a eu deux ou trois qui étaient typiquement arrivés de New York.
Bien sûr, oui. Bah, chez nous, oui, ce qui est très très populaire, c'est vraiment de multiplier les petites mesures qui vont affecter absolument tout le monde. Moi, il y a quelques mois, là où j'habitais avant, c'est-à-dire côté Gare du Nord, Gare de l'Est, il y avait une interdiction de vendre de l'alcool dans les petits magasins après 19h. Et pendant un moment, ça a été après 17h. La logique derrière cela, c'était qu'il y avait des migrants ou des SDF qui, le soir, aimaient bien s'alcooliser. Et du coup, il fallait les empêcher de le faire. Sauf que la conséquence...
C'est qu'ils l'achetaient à 3h et
s'alcoolisaient. Ils l'achetaient à 3h, puisque eux, ils avaient le temps de le faire toute la journée. Ils n'avaient pas de contraintes, ils n'avaient pas de rendez-vous pendant la journée. Et à l'inverse, celui qui rentre chez lui le soir après le travail et qui a juste envie de s'ouvrir une petite bière ou je ne sais quoi, celui-là, on va lui dire non, monsieur, désolé, c'est pas possible.
Que s'il l'avait acheté par exemple à la station de métro Aubert, là, il aurait pu s'acheter son alcool tranquille et le transporter jusqu'à chez lui pour le boire.
Oui, tout à fait.
Donc c'était purement géographique.
Oui, c'est purement géographique.
Et puis à côté là, il y avait une salle de shoot où on pouvait shooter comme un malade.
Sans doute, oui.
Parce que c'était à côté de la gare.
Oui, bien sûr, il y en avait dans le coin.
Ça paraît logique tout ça, non?
Oui.
On sent un plan d'ensemble là, non?
Oui, on sent que c'est très réfléchi, c'est très. Oui, bien sûr. Il y a eu des backtests, ils se sont dit non, mais ça marche, ça a été fait dans d'autres pays, ça marche. Enfin bon.
Voilà. Donc, c'est une notion indispensable, mais c'est une notion à laquelle il ne faudrait même pas songer si on était dans un pays où l'État faisait fonctionner comme il faut ses fonctions régaliennes.
Ouais.
Parce que peut-être, je vais dire un truc qui est encore un peu impossible, mais peut-être cette espèce de vague de mauvaise attitude a quelque chose à voir avec l'immigration, pour ce que j'en sais.
Oui, évidemment.
L'État aurait-il fait son problème dans l'immigration? On n'aurait peut-être pas ça, non? Aussi, je lui pose la question.
Oui, non, mais évidemment qu'il y a un rapport très très lié, et enfin, il n'y a qu'à avoir
vous
des
croyez,
yeux pour.
Vous êtes pas mal pensant, vous là?
Si, je suis très très mal pensant, mais bon.
À partir du moment où l'État lâche sur l'immigration, il va être obligé de lâcher sur la santé, puis sur l'ordre public, puis sur je sais pas quoi d'autre encore.
Ouais.
Donc, si vous voulez, le respect par l'État de ses fonctions régaliennes et la délivrance des fonctions régaliennes, c'est absolument indispensable à un maintien de la liberté pour tous les citoyens.
Oui.
S'il lâche sur un coin, ça va lâcher partout.
C'est ce qui est en train
de se passer. Et moi, je crois que nos hommes politiques à l'heure actuelle, en particulier, ils cherchent désespérément s'il y a un endroit où ils n'auraient pas lâché par hasard, parce qu'à ce moment-là, il faudrait lâcher toutes affaires cessantes. Ils ont tellement abandonné, ils sont tellement trahis, ils sont tellement gourés, ils sont tellement... qu'ils disent, je sais pas, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on trouve un truc maintenant qu'on n'a pas encore à tout abandonner pour se précipiter, pour l'abandonner, pour être le premier à l'abandonner de façon à montrer qu'on est progressiste.
Oui, peut-être l'arme nucléaire, par exemple, ce genre de choses. Ça, ce serait bien.
Donc voilà, pour moi, c'est une question essentielle, mais ce que ça veut dire en termes clairs, pour un libéral, ce que je suis, c'est qu'il y a une partie importante de notre population qui n'obéit plus aux lois.
Oui.
Et donc, ça nous crée un problème pour les autres. Mais le vrai problème, c'est pourquoi ces gens-là n'obéissent plus aux lois. Je ne sais pas.
Je pense qu'il y a un mélange de raisons. Il y a à grandir avec un groupe qui a appris à ne pas respecter les lois.
Quand ce groupe est au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, il respecte très bien les lois locales.
Oui. Mais après, c'est aussi plus facile de respecter ce qu'on considère comme sa police que la police de ce qu'on considère être une puissance étrangère.
Oui, et il y en a beaucoup qui considèrent que... Donc ça veut dire qu'on a complètement raté.
Ah, oui,
si
oui.
Ces gens-là pensent qu'ils sont pas français, ça veut dire qu'on a un gros problème.
Ah bah, il y en a beaucoup qui pensent eux-mêmes qu'ils ne sont pas français. Et
ça veut dire que c'est une série d'erreurs qui ont commencé à être faites il y a 40 ou 50 ans et qu'on paye le prix aujourd'hui. Qu'on ne fait rien pour corriger, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, tout à fait. Ou alors, quand on essaye de corriger, ça s'applique à l'ensemble de la population. Et donc, en fait,
oui, on essaye d'empêcher les autres.
On réfléchit du coup en termes de privation de liberté.
Oui, donc on dit vous irez pas dans ce quartier là-bas parce que là-bas, vous allez vous faire taper dessus. Quoi.
Ouais.
Mais moi, je veux pouvoir aller n'importe où et où je veux dire que si l'histoire, personne ne va m'empêcher d'aller nulle part.
Oui.
Mais non, on vous dit, non, si vous allez là-bas, vous êtes responsable. Moi,
ne vous
appelez pas. Donc, voilà, c'est, on est dans un monde bizarre où ceux qui nous gouvernent ont pris des mesures qui nous empêchent d'être libres et continuent à les faire pour que des gens puissent continuer à commettre des crimes.
Ouais.
C'est quand même bizarre.
On a choisi même pas plus de sécurité.
Chaque fois qu'on abandonne la liberté, on abandonne la sécurité. Ce que disait Benjamin Franklin, celui qui choisira entre la liberté et la sécurité n'aura aucune des deux.
Oui, ne mérite aucune des deux, ouais, un truc comme ça, ouais, tout à fait.
Ben voilà.
Voilà, pour la sécurité et la liberté, deux piliers fondamentaux de l'ordre public. Certains réfléchissent du coup uniquement en termes de privation de liberté pour rétablir la sécurité, sans grand succès d'ailleurs. La vérité, c'est qu'on peut aussi considérer que la sécurité, pour certains, c'est la première des libertés. C'est une forme de liberté en tout cas.
En tout cas, la liberté ne peut pas s'exercer s'il n'y a pas de sécurité, ni des biens, ni des personnes, vous ne pouvez pas être libre.
Voilà, c'est un peu la condition pour que les autres libertés puissent s'exprimer. Si on n'a pas de sécurité, est-ce qu'on a du coup une propriété privée? Est-ce qu'on a une liberté d'aller et venir? Est-ce qu'on a une liberté économique? La réponse est plutôt non. Donc bref, voilà, c'est une discussion philosophique très intéressante. Et je vous remercie donc de nous avoir suivis pendant toute cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures.
Bien sûr. Et merci infiniment.